Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes bien sur RCF dans le Curious Live, l'émission mensuelle présentée par les étudiants du Master Massy à Dijon. Nous sommes Camille et Étienne, aujourd'hui accompagnés de Léa, Judith et Mathilde pour le troisième épisode de cette saison. Et en spécial guest, nous accueillons également en studio Élise Jageur qui nous apportera son expertise tout au long de l'émission. Le thème de cette année porte sur le patrimoine en Bourgogne et aujourd'hui, quoi de mieux que de parler de vin pour évoquer ce patrimoine? Ce mois-ci avait lieu à Dijon la foire internationale et gastronomique à laquelle nous nous sommes bien évidemment rendus et nous sommes allés à la rencontre de quelques domaines qui nous en ont dit un peu plus sur leur communication. On les écoute.
Est-ce que vous utilisez le digital pour communiquer?
Oui, voilà, on a un site internet où les gens peuvent nous trouver et puis après on est sur les réseaux sociaux.
Depuis peu, on vient de faire un compte Instagram.
Non.
Non? Et pourquoi?
Parce que je suis un vieux jeu. Pas ça.
Instagram. D'accord. Et Facebook.
Et pour vous, c'est quoi les avantages de communiquer sur le digital?
Il n'y a pas d'avantages.
Il y a des inconvénients du coup?
Non, non plus.
Comment dire, une nouvelle clientèle, peut-être. C'est tendance, quoi. C'est la tendance et qu'il faut y être. Hein,
pour... Ça apporte forcément quelque chose. Nous, ça nous apporte une clientèle. Je reste persuadé quand même que le plus facile quand on a envie d'acheter du vin, c'est de le goûter.
De retour en studio après cette immersion au sein de notre célèbre foire à Dijon, on le rappelle tout de même, le vin est à consommer avec modération. On voit que les avis sont assez mitigés sur l'utilisation du digital aujourd'hui. C'est vrai que le secteur du vin est affaibli par une concurrence croissante. La Bourgogne, elle, qui est une région pionnière dans le domaine, maintient tout de même les traditions et s'en sort plutôt bien. Mathilde, je crois que tu es allée fouiller un petit peu plus précisément du côté de la Bourgogne, justement, et ses différents événements autour du vin. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus?
Évidemment. Alors, on peut rappeler que la Bourgogne est réputée à l'international pour ses vins et que de nombreux événements y sont organisés chaque année. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler tout particulièrement des enchères des Hospices de Beaune. La plus ancienne et la plus renommée au monde des enchères n'est pas prête de s'essouffler. En effet, la 161e édition se tiendra le 3e dimanche de novembre pour suivre la tradition, marquant ainsi le fin du cycle viticole et des vinifications de nos vins de terroir. Pour ceux qui ne seraient pas incollables sur le sujet, les fonds récoltés lors de la vente seront reversés aux œuvres de charité des Hospices de Beaune. Sachez aussi qu'il est possible de personnaliser les étiquettes de vos millésimes pour garder un souvenir.
Et si par exemple on est pris d'une envie soudaine d'y assister et d'acquérir un vin d'exception par exemple, c'est possible?
C'est possible mesdames et messieurs, sur place mais aussi sur le site internet dédié. Ainsi, il n'y a pas d'intermédiaire entre la maison familiale et vous, et les amateurs du monde entier peuvent y participer sans se déplacer. D'ailleurs, les Hospices de Beaune sont un lieu tellement emblématique qu'ils ont été choisis pour la dernière visite officielle d'Angela Merkel.
Bien, merci Mathilde pour toutes ces informations super intéressantes. On ne manquera pas d'aller faire un petit tour d'ailleurs aux Hospices de Beaune pour découvrir tout ça. On le disait au début de l'émission, les vins de Bourgogne sont connus internationalement. Étienne, est-ce que tu aurais quelques chiffres au sujet de nos exportations sur le marché mondial?
J'ai quelques bons chiffres, surtout grâce à une bonne récolte en 2020, donc ce qui a donné lieu à plus de volume et des vins de meilleure qualité. Alors ces chiffres, ils nous viennent tout droit du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Eh bien qu'à l'export, il y a donc les vins de Bourgogne ont connu une hausse des ventes de 22,1% dans la première partie de 2021. Et également une hausse du chiffre d'affaires de 26,2% pour établir un nouveau record donc de 741 millions d'euros. Alors sur le marché mondial, les exportations sont également en hausse avec les États-Unis et le Royaume-Uni en tête et des chiffres donc qui sont excellents par rapport à l'ensemble des vins AOC français. Donc la Bourgogne est le vignoble français avec le plus de croissance. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres? Eh bien d'abord par un boom de la consommation après la période Covid, donc une levée des contraintes dues à la crise sanitaire, de plus en plus de vins qui sont également proposés dans les circuits de grande distribution et surtout la fin de la surtaxe américaine sur les vins français.
Et en parlant de renommée mondiale d'ailleurs, j'ai vu que récemment l'OIV, dite l'ONU du vin, venait s'installer à Dijon prochainement. Est-ce que tu aurais plus d'explications là-dessus? Parce que c'est quand même, on va le dire, une opportunité pour notre région.
Et ça, c'est une très bonne opportunité, mais surtout ça fait passer Dijon dans une autre catégorie. Alors l'OIV, c'est l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, donc composée de 48 États membres, et qui représente à eux seuls quand même 85% de la production globale de vin et 80% de la consommation mondiale. C'est pas mal. Donc en 2024, à Dijon, ce pôle d'expertise de la viniviticulture s'installera dans la cité, et donc Dijon désormais va pouvoir s'affirmer, affirmer sa place en tant que pôle international de la gastronomie et du vin.
On le comprend bien, du coup, en Bourgogne, le vin, c'est vraiment sacré et ça fait indéniablement partie des traditions. Parlons de traditions, d'ailleurs, un petit peu. Toi, Mathilde, qui n'es pas forcément experte dans le domaine, quelle est la première chose que tu vas regarder quand tu achètes du vin? Est-ce qu'il y a un élément qui t'attire un peu plus qu'un autre?
Alors effectivement, je ne m'y connais pas du tout. Alors je vais regarder l'étiquette qui est sur la bouteille et si je ne trouve pas assez d'informations, je vais me référer directement sur le site internet.
C'est vrai que chaque vin est unique et chaque bouteille l'est aussi. L'étiquette est, en tout cas, il me semble, un des éléments qu'on observe en premier lieu. Toi, Judith, qui a réalisé une première expérience en stage dans une agence de communication spécialisée dans l'univers du vin, justement, pourquoi l'étiquette, c'est si important ?
Parce que l'étiquette et l'identité visuelle d'une bouteille reflètent directement l'image de marque. C'est le premier point de contact avec le client, surtout en grande distribution. Sa première utilité, elle est informative. Il faut respecter un cahier des charges très précis, entre mentions légales, indications pédagogiques, règles terminologiques. La marge de créativité, elle est donc restreinte par un marché qui est exigeant. La loi E20, l'internationalisation du secteur. Il y a donc une sorte d'universalité entre les marques. Les domaines, ils communiquent donc souvent d'une manière très opérationnelle.
Mais alors concrètement, comment on fait pour se démarquer ?
En assumant une communication visuelle créative. Mais dans un secteur qui possède une histoire et un marché codifié et réglementé, cela demande beaucoup de réflexion, notamment pour trouver un équilibre et innover. Pour les vins d'entrée de gamme et les grandes marques, on remarque la mise en place de plateformes de marques travaillées et osées. Les étiquettes sont plus colorées, moins traditionnelles, moins rustiques. On peut même voir des collaborations avec des artistes, des atouts pour attirer les clients en rayon. Cela permet aussi à une bouteille de devenir un véritable objet d'art que l'on collectionne, par exemple. Pour le secteur premium et le luxe, c'est plus délicat. Il y a une certaine cohabitation qu'il faut faire avec les codes plus stricts, garants de l'héritage et de la notoriété internationale. Les codes, ils sont donc travaillés et transformés, mais avec beaucoup plus de précautions, pour rester crédibles. L'enjeu est donc d'insuffler de la modernité dans la création d'une identité en accord avec les vins, ses arômes, sa région. C'est donc un mix entre l'exception et l'excellence à la française, avec des codes similaires aux grandes maisons de mode. La communication, elle se fait donc de manière plus discrète et elle se fonde dans l'histoire et la tradition. La singularité se fait dans les détails, on pourrait dire. Pour se démarquer, on peut aussi utiliser les labels, qui est une solution de plus en plus utilisée par les viticulteurs, notamment en grande distribution, où 2/3 des acheteurs prennent le temps de regarder si une bouteille est labellisée lors d'un achat.
Bien, merci Judith pour toutes ces informations. Avant d'accueillir en studio Élise, une courte pause musicale avec Summer Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazelwood.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your suit.
sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine.
C'est le MAG avec les étudiants du master Massy spécialisé en stratégie de communication internationale à Dijon, Camille Dacuna.
De retour en studio, on accueille aujourd'hui Élise, chargée de projet référente relations presse et influence à la Bicyclette de Paul, agence de communication spécialisée dans l'univers du vin. Élise, merci d'avoir accepté notre invitation. Si tu veux bien, je te laisse présenter rapidement à nos auditeurs l'agence dans laquelle tu travailles.
Alors bonjour à tous. Effectivement, je travaille à la Bicyclette de Paul. Donc c'est une agence de com spécialisée dans les vins. C'est une agence vraiment 360, donc on traite aussi bien du web que du print, des réseaux sociaux, au site web, l'image de marque, etc.
Alors, on l'a vu un petit peu plus tôt, la concurrence se fait de plus en plus rude dans le secteur du vin et il y a un réel besoin de se démarquer, je t'apprends rien. Quelles sont les clés aujourd'hui pour une bonne communication dans le monde du vin ?
Donc, je vais parler du domaine que je connais le mieux, le digital. Sur les réseaux sociaux, pour bien communiquer, il faut passer par la case stratégie digitale. Au début d'une collab, on va analyser les cibles de notre communication et définir des axes de publication précis. Par exemple, on se demande ce qu'attendent les internautes comme contenu, du contenu plutôt pédagogique, de beaux paysages, la découverte de nouvelles cuvées. C'est important en fait de définir ça en amont car on ne publie pas les mêmes contenus sur Facebook que sur Instagram ou encore sur LinkedIn. Il faut toujours s'adapter à son auditoire et au réseau social utilisé. Ensuite, on a l'aspect proximité qui est très important sur les réseaux sociaux. Quand on communique en tant qu'agence, on représente un producteur. Donc on essaie d'être au plus proche de lui, de comprendre sa vision, sa manière de travailler, son quotidien. C'est pourquoi on va régulièrement à la rencontre de nos clients. Et un point essentiel dans la communication du vin, c'est qu'il faut adapter sa communication pour toujours rester dans l'éthique et dans le respect de la fameuse loi E20. Cette loi, elle autorise à communiquer à propos d'infos objectives comme les caractéristiques sensorielles et gustatives des vins, l'histoire du domaine, le terroir, le prix. Par contre, on ne peut pas du tout produire des contenus qui associent l'alcool aux notions de plaisir, de convivialité ou de partage. Un dernier point important pour une bonne communication dans le monde du vin, c'est l'élaboration d'un storytelling authentique. Pour moi, l'intérêt est dans la retranscription de l'histoire unique de chaque vin. On peut parler de marketing de provenance et l'objectif est de communiquer sur l'origine d'un vin et transmettre des valeurs en mettant en avant le savoir-faire, l'histoire, le patrimoine.
Et justement, Élise, tu viens de nous parler du storytelling. Toi, Judith, il me semble que c'est un domaine que tu connais plutôt bien. Pourquoi aujourd'hui les marques, les domaines ont tout intérêt à se mettre au storytelling ?
Alors oui, en effet, l'utilisation du storytelling ou l'art de raconter une histoire à des fins de communication est de plus en plus fréquente dans la stratégie des marques. La singularité et la rareté des produits du secteur viticole font du storytelling une méthode idéale pour se démarquer. La technique, elle est d'ailleurs utilisée presque de manière inconsciente, par exemple lors des visites lorsqu'un viticulteur raconte l'histoire de son domaine à des clients. Avec l'arrivée du digital, raconter une histoire pour se démarquer, c'est vraiment devenu une réelle plus-value. Cette technique, elle permet de capter l'attention, de susciter l'émotion, de travailler la personnalité de marque et, selon certaines études, de favoriser la mémorisation. Elle peut aussi être utilisée pour élever la marque à un rang de mythe. Le storytelling, il peut ainsi s'inspirer d'histoires réelles ou créer des histoires imaginaires, liées à la marque ou au produit. Une fois mis en place, le storytelling est insufflé dans tous les supports de communication, du logo à l'étiquette, en passant par le site internet et les réseaux sociaux.
Eh bien, ça nous paraît presque essentiel, du coup, d'avoir recours à ce genre d'outils. Léa, est-ce que tous ces bouleversements en communication dans le monde du vin, ils sont récents ?
Eh bien, pendant longtemps, la communication se faisait par un nom, une étiquette ou encore le lieu. Donc, c'est très récent pour les vignerons de communiquer autrement. C'est vraiment comme une révolution. Cette révolution, elle permet la démocratisation, donc de rendre le milieu accessible et ouvert à plus de monde et de rendre ce milieu moins élitiste. La consommation, elle aussi, elle change. Il y a 30 ans, la consommation était quotidienne, alors qu'aujourd'hui, elle est plus occasionnelle.
Et aussi, en 40 ans, le volume d'alcool consommé par un Français en une année a été divisé par deux, notamment à cause de la loi Evin, des progrès scientifiques, mais aussi à cause des campagnes de prévention du gouvernement.
Et alors Élise, toi, avec ton expertise, quelles sont selon toi les nouvelles opportunités en termes de communication dans ce secteur ?
Alors je pense que le confinement a eu l'effet d'un déclic sur les acteurs du monde viticole. Nombre d'entre eux se sont mis sur les réseaux sociaux, ont refondu leur site internet, ont fait évoluer leur site vitrine en site e-commerce, car justement, aujourd'hui, on achète beaucoup plus sur internet qu'avant. On a également de nouvelles attentes en tant que consommateurs qui impactent la com. On se demande beaucoup plus aujourd'hui comment le vin a été fabriqué, est-ce que c'était dans le respect de l'environnement, parce qu'on a de plus en plus de vins bio, fabriqués en agriculture biologique et en biodynamie. Et évidemment, les domaines en font un argument commercial, c'est un peu la tendance du moment. Et les réseaux sociaux, ils permettent de répondre à ces attentes. Ils apportent des explications qui ne sont pas écrites sur l'étiquette. Et même si leur utilisation n'est pas nouvelle, les acteurs de la vigne ont pris conscience de leur intérêt commercial et communicationnel. Donc le vin est vraiment en train de se renouveler grâce aux réseaux sociaux. Ça permet d'apporter de la modernité. Par exemple, quand on se rend compte qu'un domaine est sur Instagram, pour les cibles les plus jeunes, c'est intéressant.
Et du coup, concrètement, comment on fait pour se démarquer face aux autres domaines, aux autres cavistes ?
Alors là est tout l'intérêt, justement, la communication sert à se différencier. Et c'est de plus en plus difficile sur les réseaux sociaux, car de nombreux domaines ou autres entreprises agricoles ont un compte Instagram. Donc la différenciation passera par l'angle ou les axes de publication choisis, mais aussi par le ton et l'empreinte esthétique qu'on transmet à travers du contenu. Donc je m'explique. D'abord, sur les réseaux sociaux comme Instagram, on soigne beaucoup l'aspect visuel. C'est important de travailler son image avec des contenus qualitatifs qui vont représenter les valeurs de la marque. Ensuite, pour se différencier, il faut apporter une vraie plus-value. Par exemple, avec le caviste dijonnais Le Goût du Vin, on a basé notre stratégie sur la découverte des cuvées et sur l'approche pédagogique du monde du vin. Par exemple, on publie des vidéos sur Instagram pour expliquer le vocabulaire de la dégustation, et ça plaît énormément. Avec un domaine, c'est essentiel de mettre en avant l'image du producteur. Il faut les solliciter pour parler d'eux, de leur vie, de leur travail, et c'est cette approche qui fait aussi la différence. Les consommateurs, et surtout les plus jeunes, sont vraiment curieux et intéressés par le vin, mais beaucoup estiment ne pas vraiment s'y connaître. Donc ce que vont chercher les jeunes, c'est vraiment la démocratisation de cet univers.
Et justement, à l'ère des réseaux sociaux, comme tu nous en parlais tout à l'heure, Léa, comment le secteur va se renouveler, toi qui travailles principalement aujourd'hui avec les réseaux sociaux ?
Eh bien, grâce notamment aux nouveaux acteurs des réseaux sociaux, les influenceurs. Un influenceur, c'est une personne qui partage sa vie, ses idées, voire ses passions sous les réseaux sociaux. C'est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience et sa communauté. Plusieurs catégories d'influenceurs existent selon ce qu'ils partagent. Donc il y a des influenceurs lifestyle, donc le partage de leur vie de tous les jours, mais aussi des influenceurs jeux vidéo, beauté et ce qui nous intéresse aujourd'hui, vin. Ils touchent une cible différente, ils touchent les jeunes, donc 18 à 30 ans, plutôt la génération Z et les millennials. Ainsi, ils touchent les consommateurs de demain. Aujourd'hui, environ 36% des grands acheteurs de vin achètent en se référant aux recommandations des réseaux sociaux et des influenceurs. Et ce chiffre augmente de chaque année et devient très important pour les entreprises et les vignobles. Et nous le savons, un consommateur fait confiance à d'autres consommateurs pour acheter via des avis ou justement des influenceurs.
Alors, comme Léa vient de nous le confirmer, les influenceurs jouent donc un rôle important dans ces nouvelles manières de communiquer. Du coup, de manière plus générale, Élise, et on terminera par ça, quel rôle a l'influence dans le secteur aujourd'hui ?
Alors, en effet, le marketing d'influence, c'est une de nos compétences la plus demandée en ce moment. Et ça n'a rien d'étonnant, car comme l'a évoqué Léa, ce qui nous pousse à tester un nouveau produit, c'est souvent la recommandation d'un proche. Et l'influenceur joue ce rôle-là d'entremetteur entre la marque et le potentiel client. Il va réussir en fait à donner envie aux abonnés de consommer certains vins qui vont être méconnus ou originaux. Il va expliquer la cuvée, partager son univers, faire vivre son histoire en la racontant. C'est un vrai passeur d'histoire. Et l'influence, c'est aussi une grosse opportunité pour l'œnotourisme, grâce aux influenceurs voyage qui font découvrir des super spots, des domaines, etc. 28% des Français suivent un influenceur vin en 2021. Le constat, c'est donc que toutes les générations sont présentes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, le marketing d'influence génère 11 fois plus de retours sur investissement que la publicité conventionnelle. C'est donc la méthode d'acquisition la plus rentable actuellement.
Eh bien, merci à tous pour ces interventions très enrichissantes. Je pense que nos auditeurs en ont découvert pas mal sur le sujet et sur cet univers qui fait finalement partie intégrante de notre patrimoine bourguignon. Élise, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos interrogations. Et comme il n'y a jamais de mai sans vin, le mois prochain, nous vous parlerons gastronomie. À bientôt. 18h30 sur RCF et tout de suite, votre journal local.